Bonjour à tous, nous voici au Mont Aigoual, lieu empreint d'histoire et de culture. À 1567 mètres d'altitude dans les Cévennes, le Radisand vous présente l'Observatoire et le Mont Aigoual. Il y a 124 ans, soit plus de 54 130 jours, que cet observatoire est né. Mais le plus important, c'est l'anniversaire de la table d'orientation. Elle a 110 ans aujourd'hui. Happy birthday! Cette dame en marbre, apportée par le Touring Club de France, est l'une des curiosités de la tour. Au cours de cette émission, vous entendrez des chroniqueurs et chroniqueuses, des invités qui ont un lien très particulier avec ce lieu, qui est parfois timide, chaleureux, frigorifiant et parfois répulsif. Mais maintenant, nous allons écouter Timéo pour sa chronique.
Merci. Vous vous demandez sûrement quelle était la météo il y a 100 ans ? Eh bien, voici le bulletin météo du 15 août 1918. Ce fut une journée de ciel pur avec de légères brumes à l'horizon, une température rafraîchissante entre 8,6 et 11,4 degrés sous abri, avec un maximum de 24 degrés à 18h. Parlons du vent. Durant la journée, la force a été d'entre 0 et 4. Pas de quoi transformer votre enfant en Superman. Maintenant, vous pourrez vous vanter de connaître la météo du Mont Aigoual du 15 août 1918. Et je sais bien que vous limiter à un seul jour de météo frustrera votre ego surdimensionné. Alors, le résumé du mois d'août 1918 que je vais vous donner comblera vos attentes. Durant ce beau mois d'il y a 100 ans, les météorologues ont aperçu de nombreux sangliers accompagnés en dessert de nombreux corbeaux et éperviers. Sinon, pour la météo, il y a eu 3 jours de flotte, 3 jours pour jouer à Retour vers le futur avec des éclairs, et 7 jours de Champs-Élysées quand on a gagné la Coupe du Monde, c'est-à-dire du brouillard intense. Et là, vous vous dites, enfin il a fini sa tortueuse chronique sur la météo d'il y a pile 100 ans. Mais enfin non, car je sais que votre esprit curieux veut aussi connaître la météo d'il y a 110 ans, cette précieuse année d'inauguration de la table d'orientation. Alors je vais tenter d'humblement combler votre désir le plus ardent. Pour commencer, le soleil s'est levé et couché accompagné de son cher ami le brouillard, le vent n'a pas fait de folie, avec une force croissante entre 1 et 3, et là, ceux qui ont fait des études scientifiques prolongées me diront, la force a commencé à 1 et passé à 2 pour terminer à 3. Les températures sont les mêmes que celles de 10 ans après, soit entre 8 et 11 sous l'abri. Voilà, j'ai fini ma chronique qui, je sais, vous a rendu plus intelligent et plus cultivé, car maintenant vous connaissez non seulement la météo du Mont Aigoual du 15 août 1918, celle du mois d'août 1918, mais en plus celle du 15 août 1908. C'est vraiment génial! Et quant aux autres jours, je vous laisse chercher par vous-même, car sinon nous en serons encore là dans 100 ans.
Eh bien, merci Timéo. Les forêts sont tout autour du Mont Aigoual et la vue est splendide. Mais apparemment, ce n'était pas comme ça il y a un peu plus de 200 ans. Merci Marie-France Flao de venir sur notre plateau pour nous raconter cette belle histoire de votre aïeul, Charles Flao, qui est devenu l'ami de Georges Favre, je pense, initiateur de l'Observatoire du Mont Aigoual il y a plus de 124 ans, c'est ça?
Oui, c'est ça. Charles Flao, d'abord, il était dans le nord de la France. Il est né à Bailleul et en fait, il a voulu après rechercher... faire des recherches sur les problèmes de déboisement, mais à travers aussi l'Europe. Et entre autres, ben, il a découvert ici les problèmes du déboisement, mais aussi dans les Pyrénées, aussi dans les différentes régions d'Europe. Et là, il a rencontré évidemment Georges Fabre, qui était déjà en train de reboiser cette partie de l'Aigoual. Mais Georges Fabre est venu lui demander de l'aide, parce que c'était en fait... très très difficile pour lui. Il y en a un qui était forestier, mais l'autre était botaniste. Et il connaissait les plantes qui allaient avec le déboisement, avec le reboisement. Et c'est pour ça qu'ils ont commencé à travailler ensemble. Et Charles Flao s'est installé ici. Il y avait une bergerie qui était à l'Or de Dieu, le Jardin de Dieu, Hortus Dei. Et donc il s'est installé ici, dans une ancienne bergerie. Et la bergerie a été transformée et Flao venait ici régulièrement pour essayer de voir qu'est-ce qu'il fallait reboiser. Parce qu'ici, si vous aviez envoyé des photos, ça ne se voit pas maintenant là, mais avec les photos, on voit que c'était complètement déboisé, c'était complètement à nu. Donc ils ont retravaillé sur ce reboisement en mettant quelles essences il fallait mettre pour ce qu'il y avait de mieux pour le reboisement, pour l'avenir en fait, et surtout parce qu'en fait il y avait de grandes inondations. Donc il fallait absolument réussir à trouver les plantations, les arbres qui allaient retenir l'eau. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, même s'il y a encore des inondations quelquefois, mais ça n'est jamais ce qui était passé avant.
Merci Marie-France Flao de ce petit rappel historique. Et d'ailleurs, il y a eu par la suite un film. Et vous avez ardemment participé à ce film. Peut-être que vous voulez en parler.
Oui, bien sûr, parce que c'était un plaisir pour moi, parce qu'un jour, il y a un monsieur qui est venu me voir, Marc Kahn, et qui est venu me demander si je pouvais lui décrire ce que c'était l'Aigoual avant, parce qu'il ne connaissait pas du tout ni Charles Flao, ni Georges Fabre. Donc moi, ça a été un plaisir quand il m'a dit qu'il voulait faire un film, et donc évidemment, j'ai vraiment fait, pas des efforts, mais parce qu'au contraire, je n'avais pas besoin de ça, mais de retrouver tout ce qu'il pouvait aider Marc Kahn à faire ce film. Et donc, pour moi, ce film a été une réussite, dans le sens où on a aussi les gens du pays qui ont participé. Pour moi, ça a été aussi des moments importants. J'ai rencontré les gens, ceux que j'avais déjà rencontrés, j'ai fait rencontrer ces gens à Marc Kahn. Et donc, pour nous, ça a été aussi un moment très, très important. Et puis aussi les élus, parce qu'il y avait aussi des élus, plein de gens qui ne connaissaient pas cette histoire. Qu'est-ce que c'était que ce reboisement et le déboisement, et pourquoi il y avait eu le déboisement, et pourquoi il y a eu le reboisement, et pourquoi il fallait. Voilà.
Mais merci beaucoup. Et d'ailleurs, on peut retrouver ce DVD, sinon, à la boutique du Mont-Aigoual, ou sur le site de Marc Kahn. Merci.
Merci.
André, je viens de l'Aveyron, c'est pas très loin. On est venu passer une journée sur l'Aigoual. Je l'ai entendu parler, mais je n'étais jamais venu. On vient juste de faire l'exposition. Ensuite, peut-être une balade dans les environs. Je m'intéresse un peu à la météo, tout ce qui se passe, tout ce qu'on entend à propos du réchauffement, etc., etc. Au moins, ça permet de se documenter.
Béatrice, voilà. Je suis venue ici pour visiter parce que c'est connu par météo, pour en savoir de plus.
Vous venez d'où ?
Du nord de la France, tout près de Valenciennes. On est déjà venu il y a une vingtaine d'années. Et on voulait faire voir nos petits-enfants. Ils sont encore un peu petits pour ça, je pense. La dernière fois, il faisait plus froid.
Ludovic, je viens de Savoie. Pour voir la vue avant tout, qu'on peut voir d'assez loin, donc un sommet réputé du coin. Alors on est venu avec les petites se promener, puis on sait qu'il y a des belles forêts au pied de l'Aigoual, il y a des belles balades à faire. Je suis venu il y a 20 ans, mais ouais, il faisait beau aussi. Ouais. C'est vrai que la vue, c'est assez exceptionnel, on peut voir jusqu'à la mer parfois.
Estelle, on était venu il y a quelques années et ça faisait un petit moment que j'avais envie de revenir au Mont Aigoual parce que je sais qu'en général il fait plus frais que chez nous. Puis bon, c'est un magnifique paysage.
Daniel.
Odile.
C'est pas la première fois. Nous venons de temps en temps, on vient se ressourcer un petit peu à la montagne. On revient régulièrement voir un peu l'observatoire. Pour nous, on ne le voit pas changer. Ça reste quelque chose qui est fixé dans le pays. C'est dit, on monte et quand on arrive là, ben ça se couvre en 5 minutes et on repart frigorifié. Mais bon, c'est un petit peu la nature. Oui, l'hiver, c'est tout à fait normal, mais l'été, le temps change souvent ici. D'abord, nous sommes montés il y a 3 jours avec la pluie. Donc là, aujourd'hui, il fait très beau. Après demain, on risque d'avoir beaucoup de pluie, un temps couvert.
On est venu pour se balader, pour voir le paysage, pour voir la nature. On vient de Montpellier. Et on est venu ici pour voir le Mont Aigoual parce que c'est joli, c'est beau.
On se balade de temps en temps pendant les vacances surtout. La première fois, on s'est gelé ici. Gelé, on a eu la pluie.
14 juillet l'année dernière, on s'est fait surprendre par le froid. Mais là, on est venu pour voir le parcours Landa.
Quand vous venez ici, vous faites l'exposition météo. Est-ce que vous allez voir les météorologues ?
La première fois, quand on est venu, oui.
Mais on va y retourner parce que Flora ne connaît pas.
Vous avez fait les 4000 marches ?
C'est rude hein, quand même. Surtout quand on part avec le beau temps et qu'on arrive dans la brouillasse. C'est inattendu.
Fait pique-niquer sur les pentes de l'Aigoual, c'est superbe là, quand il fait beau. Sinon, ben, c'est intenable. Il faut redescendre vite.
Sophie, Moi, je suis d'ici, enfin du Gard. Je suis venue pour leur montrer à eux qu'ils ne sont pas de la région. Une fois, avec mes enfants petits, on a rebroussé chemin, c'était pas possible. Il y avait trop de vent, il faisait trop froid. Je pense que c'était en janvier, parce qu'on venait pour du ski. On a voulu monter jusque-là, mais ça n'a pas été possible.
Bon, nous, on est en famille, on est en camping juste un peu plus bas. Et du coup, on profite des balades du Mont Aigoual, voilà. Chaque été, on vient camper dans des endroits un peu nature. Tout ce qu'on voit, non, on se régale.
On vient chaque année. On vient chercher le frais, bien sûr. Le paysage aussi, on ne se lasse pas. On est de Montpellier. On retourne voir le musée à chaque fois. Et on s'informe, on regarde s'il y a des nouveautés. Oui, il y a eu une année où on est venu comme chaque année faire le pique-nique. Donc c'était le mois d'août. Et on était frigorifiés. On avait pris le t-shirt, des bardeurs et tout. On claquait des dents. Non, c'est super. Et puis le paysage est différent à chaque fois. On voit le Mont Blanc, on voit toute la vallée du Rhône. Bon, nous, on est originaire de la vallée du Rhône.
De l'autre côté du Mont Aigoual, on voit la mer qu'on n'a jamais vue depuis qu'on vient ici. Ouais.
Là, on a eu de la chance, on la voit. Oui.
Il y a beau y avoir des gens, le son n'est pas le même. Les gens ne nous gênent pas. En ville, on a tendance à se dire oh là, mais qu'est-ce qui parle fort. Et là, il y a, je ne sais pas si c'est l'altitude ou quoi, ça fait une ambiance reposante.
Les enfants, Lorraine et Étienne, la mamie Denise et Alain, le papy. Ah non, on a commencé que la table d'orientation.
Où était le nord, le sud, l'ouest et l'est.
On a regardé aussi où on habite à Rehem, une même maison.
On a vu les géraniums sur le balcon.
Vous avez vu, on habite à un autre endroit. On est franc-comtois.
Les Alpes qui cachent.
Qu'est-ce qui vous a décidé de venir ici?
Moi.
C'est très beau ici, magnifique.
Alex.
Véronique.
Venir faire un tour.
L'air frais.
Voilà, on est du Gard, là. On est à côté, on n'est pas loin.
C'est un tour quand même qu'on fait deux fois par an à peu près. On voit deux saisons, on va dire.
Mais aujourd'hui il fait bon, ça va. Cette nuit va faire mauvais.
Michel, en fait nous sommes originaires de Nîmes, mais nous habitons dans le Var et on a fait un circuit en passant par le Puy d'Envelé et revenu sur Canrieux. Pourquoi? Parce que quand j'étais gamin, je venais à Canrieux. Étant de Nîmes, on venait faire du ski sur le Mont Aigoual, en fait, plutôt à Espérou, à Canrieux. Ça a été quand même bien préservé.
Et là, vous étiez à la table d'orientation.
J'avais besoin de connaître les endroits, des repères par rapport à Nîmes, Montpellier, le Grand Sommet côté voisin. Moi, j'ai habité 40 ans du côté de Grenoble, quand même. Et ça me situe, effectivement, dans un espace immense. C'est un site d'observation unique, en plus. Il y a une clarté, il y a une vision sur la voûte céleste, parce qu'il n'y a pas de lumière, donc on est dans des conditions optimales. Quoi. Ça, c'est ça qui est super.
Mon Ventoux, tu es en train de regarder s'il était mentionné là.
Oui, non. Mais c'est brumeux aujourd'hui.
Mon Ventoux, ouais, voilà, c'est sympa, c'est très joli, ouais. 380,
mais
là c'est.
Là-bas, c'est
je me prénomme Claude.
Voilà, Gisèle.
Je suis souvent ici. J'habite Espériès, le hameau d'Espériès, commune Valorogue, sur la route du col du Passe. On a commencé par l'expo, j'y étais venu il y a une dizaine d'années. J'ai un souvenir, moi j'adore la météo, alors ouais, voilà. Je suis natif du pays, j'ai connu des moments où c'était inaccessible. J'avais un ami qui avait un vieux chasse-neige et qui était payé pour essayer d'ouvrir la route là. Et il y avait de la survie. Alors moi j'ai une petite anecdote, oui. J'étais pompier volontaire un jour, on partait du canton de Bar des Cévennes et on nous a envoyé sur les Gouales en pleine nuit et on s'est perdu. Et on a réveillé les météorologues pour savoir où était le feu. Ils étaient écroulés de rire. Et quand on est arrivé au petit jour sur les lieux de l'incendie, le feu était fini. Voilà. On avait un vieux Dodge, il n'y avait pas de frein. Et on est passé par les pistes là, qui surplombent vers le côte, par le tunnel du Marquerès, mais on était passé sur le tunnel. Et comme on n'avait pas de frein, on mettait de la bière dans le réservoir de liquide pour que ça freine. Et du coup, on n'avait plus rien à boire.
Merci à tous les visiteurs et visiteuses du Mont Aigoual du samedi 11 et dimanche 12 août. Et maintenant, nous allons passer avec la chronique de Mathilde. C'est à toi.
Chronique de bord du Mont Aigoual, 1908. Je suis inaugurée par Monsieur Canael. Faut dire que je suis une très belle table d'orientation. J'indique aux voyageurs les plus perdus la direction à suivre. Enfin, quand il n'y a pas de brouillard. Et quand le vent ne souffle pas trop fort sur la tour. Bref, je suis très belle. Et sans vouloir me vanter, je suis assez solide. Pas comme les vitres de la galerie qui se brisent lors de l'ouragan de 1918 ou de la toiture de l'écurie qui s'envole. J'avoue, je suis assez insensible au charme de la foudre et ne fond pas comme la porte d'entrée en 1911. Bon, Il est vrai que la solitude ne me pèse pas autant qu'au responsable en 1974, qui logea dans l'observatoire 18 mois tout seul face aux pannes et tempêtes répétées. Il faut dire que la météo fut impitoyable avec lui. Après avoir remis en état de marche le téléphone le 3 janvier, celui-ci fut de nouveau détérioré le 6 avant d'être carrément pulvérisé le 9 par un début de feu qui créa même un début d'incendie. Pour le réconforter, j'aurais bien proposé Shining, mais je l'ai senti assez froid à cette idée. Bon, pas autant qu'en 1968 où le chef de station s'était gelé le visage. Mais quand même! Si je pouvais vraiment donner mon avis, je dirais que le deuxième anniversaire le plus important cette année, c'est les 60 ans de l'installation des toilettes au rez-de-chaussée. Non mais imaginez l'odeur insoutenable que dégagea une jeune fille en 1921 après avoir confondu les toilettes et la fosse. Brrr, j'en ai encore des frissons. Après, comme on dit, l'erreur est humaine. J'ai beau donner l'orientation, cela n'empêche pas les voitures d'être renversées par un vent de 227 km/h comme en 1969 ou les avions de s'écraser dans la forêt enneigée en contrebas comme en 1952. Ainsi, à part quelques ingrats, on vient m'admirer de tous les pays. Je me souviendrai toujours du premier reportage télé à l'Observatoire en 1966. Ah, et l'émission C'est pas sorcier en 2005. Et les 40 militaires venus nous protéger après les événements de 1968. Ah là là, je suis très fière de faire partie de ce monde. D'ailleurs, nous pourrions fêter les 60 ans de cette lettre de Paris en avril. L'importance des observations de l'Égoal, notamment en ce qui concerne la pluviosité et le vent, l'intérêt régional que présentent les conditions météorologiques sur le massif, tant pour les services d'annonce des crues que pour l'EDF, les eaux et forêts et le tourisme régional, enfin la nécessité de disposer d'un certain nombre de séries climatologiques relatives à des points hauts, font que le directeur de la météorologie nationale a décidé de maintenir en activité la station du Mont-Égoal. Et n'oubliez pas, je suis une très belle table d'orientation.
Eh bien, merci Mathilde. Quelle table d'orientation tu nous as présentée. C'est super. Eh bien, maintenant, on va continuer avec la pataphysique.
Donc, il y a 2 ans, j'ai rencontré un pataphysicien sur le Mont Égoal, Éric Diot. Aujourd'hui, nous l'avons par téléphone. Comment allez-vous, Éric? Ou plutôt...
Oui, bonjour. Je suis au sommet de la tour et comme de manière habituelle, je tourne autour de la table qui est au milieu de la tour pour observer le lever de soleil assez merveilleux ce matin. Voilà. C'est une journée exceptionnelle puisque le soleil se lève à l'ouest.
Ah ! Eh bien, voilà qui est une information assez importante aujourd'hui pour tous nos auditeurs qui chercheraient peut-être le lever de soleil, qui ont cherché le lever de soleil vers le nord-est. Et il s'est pointé vers où alors le soleil aujourd'hui ? Vers quel massif ?
Eh bien, derrière le Lévézou, en fait, nous avions la vue sur les magnifiques pylônes de je ne sais plus d'ailleurs à quoi ils servent exactement, peut-être à produire de l'électricité. Et disons que la couleur rougeoyante du ciel se détachait en ombre chinoise et non pas japonaise, la magnificence de ces poteaux électriques, qui ne sont pas électriques puisqu'ils ne produisent pas vraiment d'électricité, en fait, puisqu'ils tournent, voilà.
Voilà, bon ben voilà, tout un programme sur le Mont Égoal, je vois. Et je vois que c'est apparemment sur la tour. Et c'est donc l'anniversaire de cette table d'observation. Elle a 110 ans.
Ah, je vous reprends. Ce n'est pas une table d'observation, c'est une table d'orientation.
Très bien. Et alors, on s'oriente comment?
Eh bien, en regardant la table.
Est-ce que le nord est au bon endroit, d'après vous?
Le nord est à peu près au bon endroit, mis à part qu'évidemment, avec la modification du magnétisme terrestre, il a légèrement obliqué vers la droite, comme une grande partie de notre monde d'ailleurs.
D'accord. Et donc, elle a 110 ans, cette table, ça va?
Tout à fait. Elle a 110 ans. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir l'écriture des différentes villes françaises qui a changé depuis un peu plus d'un siècle, comme Sète, qui s'écrivait C-E-T-E.
D'accord, bien. Et est-ce que cette tour, on peut dire que c'est la vigie de l'observatoire?
En quelque sorte, c'est la vigie de l'observatoire, mais uniquement 101 jours par an, car le reste des jours, nous sommes dans le brouillard. Donc nous ne pouvons nous repérer en regardant cette table d'orientation, puisque la visibilité est nulle. Donc heureusement que depuis quelques années, nous bénéficions de boussoles d'une très grande technologie qui sont les portables et leur magnifique système GPS.
est-ce qu'elle pourrait être un phare quelque part, puisqu'on est dans le brouillard, est-ce que les randonneurs peuvent la repérer assez loin pour ne pas se perdre?
Alors en fait, les randonneurs peuvent la repérer d'assez loin de ce plan, parce qu'en général, quand il y a du brouillard et que des gens approchent, comme nous sommes assez peureux à l'observatoire, nous avons tendance à tirer sur les premiers mouvements que nous voyons au loin. Donc ils peuvent arriver à déterminer le lieu d'où provient le coup de feu et donc savoir qu'ils sont à proximité de la tour.
D'accord. Est-ce que cette tour, elle a aussi des anecdotes particulières?
Alors, au début du XXe siècle, on l'a dénommée la tour des soupirs, en fait, parce que au pied de cette dite tour se trouvent les oubliettes du Mont-Aigoual, en fait, qui correspondent à une petite porte sous le bâtiment, en fait, que personne ne connaît, mis à part nous d'ailleurs, dans laquelle les personnes indésirables étaient enfermées quelquefois pendant plusieurs mois, nourries aux cèpes. Voilà. Donc la tour des soupirs.
D'accord. Et vous enlevez de temps en temps des squelettes pour... Non, ça va. Elle n'est pas comblée. Ces oubliettes ne sont pas comblées, ça va?
Non, non, elles ne sont pas comblées encore. Non, non, les squelettes ont été évacués depuis vraiment relativement longtemps. Certains sont visibles d'ailleurs à l'INRA à Montpellier, exposés dans le Palais des Soupirs également, hein, où un certain nombre de squelettes ont été récupérés dans les différents observatoires de météorologie forestière qui étaient répartis sur le territoire à la fin du 19e siècle, début du 20e.
Eh bien, merci Eric de...
Mais avec volontiers.
Et en conclusion, qu'est-ce que vous pourriez dire à tous ces visiteurs et futurs visiteurs du Mont-Aigoual?
De ne jamais oublier leur boussole.
Eh bien, merci et nous vous souhaitons une bonne fin de journée et une bonne soirée. Peut-être quelque chose en perspective pour cette soirée du 15 août?
Pour cette soirée du 15 août, eh bien écoutez, normalement nous lançons un satellite de détection des mégots de cigarettes au bord du Salagou.
Eh bien alors, bon lancement.
Merci beaucoup madame, avec volontiers encore une fois.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Alors l'observatoire et les météorologues. Merci à toute l'équipe météo pour votre chaleureux accueil et votre électricité. Autour du plateau, je vous présente Chantal Vimpert, la fée de l'Aigoual, Éric Gosse, le guéluron, et Christian Pialot, le vaudou de l'Aigoual. Éric, un petit point de météo de ce 15 août 2018?
Eh bien, aujourd'hui, belle journée. Après une journée un peu mitigée hier, on retrouve des conditions bien anticycloniques avec un vent nettement moins fort qu'hier et du soleil qui va briller jusqu'au soir, juste agrémenté de jolis petits cumulus de beau temps sans aucune conséquence. Les températures en plus en profitent pour remonter et atteignent un niveau sympathique pour l'Aigoual, 20 degrés. Et ce temps-là se poursuit donc demain, et bon, avant une petite dégradation vendredi.
Très bien, bon, alors il n'y aura pas de petits nuages qui va venir se coincer au-dessus de notre plateau radio pour nous faire quelques petites surprises?
Non, pas du tout, juste de très discrets cumulus, et donc aucun problème, l'ensoleillement sera maximal.
Donc ce soir, on pourra voir des étoiles?
Bien sûr, l'atmosphère est limpide et donc on pourra profiter d'un magnifique ciel étoilé.
Je crois qu'en plus, la période du mois d'août, elle est propice à un événement, n'est-ce pas?
Et oui, donc on pourra voir les étoiles filantes défiler joyeusement dans le ciel étoilé de l'Aigoual.
Mais c'est parfait ça. Alors je pense que la table d'orientation, elle va être très contente de voir plein de monde du coup.
Ah, je pense qu'elle sera très occupée ce soir.
Mais merci Éric.
De rien.
Chantal et Christian, vous êtes des personnages quand même qui pourraient être des personnages fantastiques, comme tirés d'un roman ou d'un film de science-fiction. Parce que, quelle est votre mission sur ce fort?
Moi, je m'occupe de la maintenance sur le site, sur le fort, dans le fort, comme tu dis. Donc, je fais un peu de tout. Je touche un peu d'électricité, je fais un peu d'informatique, pas beaucoup la cuisine quand même.
Et Chantal?
Moi, je suis donc pas technicien de maintenance comme Christian. Je fais partie de l'équipe des météorologues. Ça veut dire qu'il y a très longtemps, j'ai fait l'école de la météo. Ce qui nous occupe principalement actuellement, c'est l'exposition, donc le rôle de médiateur scientifique. Mais ceci dit, comme on est une petite équipe, il faut toucher à tout ici, pas uniquement faire la cuisine, gérer l'intendance, les imprévus, parce qu'on est sur un site isolé, les infrastructures sont lourdes, et il faut savoir être réactif, sans faire n'importe quoi. Donc voilà, il faut garder son sang-froid tout en étant très, très, très réactif. Donc l'été, ça va bien, l'hiver, c'est un peu plus compliqué, mais voilà. Sans se mettre en danger, voilà.
Mais alors, tu parles d'imprévu, mais nos auditeurs, ils ne savent pas qu'est-ce qu'il peut y avoir comme imprévu ici, sur le Mont Aigoual. Qu'est-ce qui peut se passer Apparemment, vous êtes isolés, mais quand même, on vous voit de partout.
Non, on ne nous voit peut-être pas de partout tout le temps. On a 240 jours de brouillard par an en moyenne. Donc des fois, nous, on n'y voit rien et on ne nous voit pas. Mais effectivement, quand on y voit, on voit très loin. On voit la mer, les Alpes et autres. Non, ce que je veux dire par compliqué, c'est qu'effectivement, on a du matériel. On est censé être autonome. Donc on récupère de l'eau, par exemple, dans une cuve, avec un système très sophistiqué que Christian gère très très bien et qui nous permet parfois d'être autonome, mais Christian n'est pas toujours là. On a aussi un groupe électrogène, on fabrique notre électricité, on est quand même bien placé pour tous les phénomènes orageux, un peu difficiles, le vent violent, l'hiver ça peut être des orages de neige, des choses comme ça. Donc effectivement là on a quand même beaucoup de supports techniques, il faut être quand même assez habile et intervenir assez vite. Donc on n'est pas des spécialistes de ça, c'est Christian, mais comme je l'ai dit, Christian n'est pas là tout le temps. Donc il nous a formés un petit peu pour au moins intervenir et pas se laisser... voilà. Notamment, ça peut être en plein été, quand il y a des orages avec le groupe électrogène, des fois il fait des ratés, de moins en moins. Mais quand on a du public dans l'exposition, pas laisser les gens dans le noir, il faut assurer, voilà, il faut tout faire en même temps.
En tout cas, là, on vient d'écouter le micro-trottoir et comme on a entendu, les visiteurs adorent quand même venir vous voir et venir faire l'expo et venir vous écouter et apprendre des choses parce que vous amenez aussi un petit savoir et pendant les vacances, ça fait du bien.
Là, c'est pendant les vacances. Effectivement, juillet, août, c'est plus des visiteurs, enfin des familles, on va dire. En mai, juin, septembre, c'est des groupes. Ça peut être des scolaires, ça peut être des randonneurs, ça peut être des autocaristes. Ce que les gens apprécient ici, effectivement, c'est la vue qu'on a, le panorama, le site, qui quand même, on n'est pas en zone urbaine. Et le fait de rencontrer quelqu'un qui leur raconte des histoires vécues, des histoires de météo, des histoires de climat. C'est quand même un site qui a vécu, quoi, qui a deux belles histoires et pas qu'une histoire climatique, effectivement. Et ici, on est en conditions réelles. On voit les éléments extérieurs et après, on met des images en réel de ce qui passe. C'est-à-dire là, on peut vraiment confronter aussi bien des supports numériques avec la réalité, en fait.
Mais alors, Christian, j'ai vu que ça fait 26 ans que tu es dans les couloirs du fort. C'est pas comme le fort Boyard. Ok, ici, ce fort, il est quand même assez particulier. Qu'est-ce que tu aimes dans ce fort?
Tout. J'aime sa proximité. Il n'est pas très loin de chez moi, déjà.
Pourquoi? Tu habites où?
Moi, j'habite tout près. J'habite à 8 km de là. Donc, tu vois,
Ouais. Je
peux venir à pied, en vélo.
Un ski.
Et un ski, même, ça m'est arrivé. Ouais. Je le fais moins maintenant. Je sais pas. Vu l'âge, je crois que on préfère venir en voiture. Et ce qu'on aime, oui, c'est, tu vois, il est perché au sommet d'une montagne. Et c'est toujours, ça attire toujours le sommet de la montagne. Je ne sais pas pourquoi. Mais,
parce qu'il fait plus frais l'été, je crois.
Ça, l'été, oui, il fait effectivement un peu plus frais. Mais non, en étant d'à côté, bien sûr, en étant le personnage local, un personnage.
Tu es un personnage. Exagérer.
Mais évidemment, ça fait plaisir de pouvoir travailler sur le lieu, quoi, sur le site. Avant, je travaillais au plus bas du département. J'ai fait les deux extrêmes. Moi, je travaillais au bord de la mer, donc à 0 mètre d'altitude, et je travaille donc au plus haut du département, 1567 mètres.
Ah, c'est pas mal. C'est bien, c'est bien.
Qui peut dire ça, disons.
Et est-ce qu'il y a des fantômes, ici?
Dans la tête de Chantal, oui, il y a des fantômes. Moi, comme je crois pas à tout ça, évidemment, ça me gêne pas. Non, moi, ça va. Il y a des bruits, effectivement. Il y a toujours des bruits avec le vent ou... toujours des souris qui passent d'un côté et de l'autre quand c'est pas un loir qui vient vous voir ou un renard qui vient voir ce que vous faites. Cet hiver, j'ai un renard qui est venu me voir, donc si je tirais bien mes câbles, si je réparais. Figure-toi qu'un jour, j'avais posé un câble sur la neige, parce qu'évidemment, c'est toujours quand il y a de la neige ou quand il y a des mauvaises conditions qu'on est en panne, c'est pas quand il fait beau, bien sûr. Donc j'avais posé un câble un soir pour relier notre éolienne qui était en test. Et donc ça passait sur la neige, j'avais un petit peu recouvert, mais le lendemain, bien sûr, le câble était bouffé. Et donc j'avais plus de signal avec l'éolienne, j'avais plus d'acquisition de données. Donc je répare mon câble et en fin de journée, voilà le renard qui vient me voir, qui me regardait de quelques dizaines de mètres pour voir si j'avais bien fait mon travail, tu vois. Je dis, ouais, mais tu devrais surveiller ta copine, le petit loir, là, ou la belette. Qu'est-ce que c'était ? C'est une fouine qui passe aussi. Il y a le renard et la fouine. Donc la fouine, je pense qu'elle m'avait bouffé la moitié de mon câble.
Mais c'est voilà. Une histoire de petit prince, ça ?
Voilà, exactement, tu vois. On rigole, mais bon. En attendant, il faut faire avec.
Et quelque chose que tu es le plus fier d'avoir fait ici au fort ?
Ah, le démarrage du groupe électrogène par détecteur d'orage.
Mmh. Ah, bravo.
Alors là, ça, c'est un truc magnifique.
Et tu peux nous expliquer ?
Ça marche du tonnerre de Dieu. Et ça nous évite pas mal de soucis. Oh, ben c'est une antenne qui nous détecte l'arrivée de l'orage avant que l'orage nous tombe sur la tête. Donc ça nous permet de faire démarrer nos groupes électrogènes, de nous isoler du secteur EDF et donc d'être tranquille, de ne pas avoir de problème. Donc oui. Dans 98% des cas, ça fonctionne bien. N'est-ce pas, Chantal ?
Oui, parce qu'en fait, si vous avez une panne électrique, qu'est-ce qui se passe ?
Une panne électrique, ben justement, on essaie de ne pas en avoir, parce que si on a une panne électrique, ça veut dire que tout ce qui alimente les onduleurs et tout ce qui alimente l'exposition va tomber en panne d'ici une dizaine de minutes. Donc il faut réagir avant ces 10 minutes. Donc il vaut mieux que le groupe électrogène derrière fonctionne, reprenne le tout et ne nous ennuie pas. Sinon, quand il y a orage, tu le vois chez toi, et ben, il y a tout qui déclenche
oui. Et
c'est un peu pénible. Et donc là, ça mettrait les visiteurs dans l'embarras, nous aussi, et l'hiver, même chose, même s'il n'y a pas trop de visiteurs l'hiver.
Puis après, on peut avoir des pannes en chaîne, c'est-à-dire bon, il y a moult ordinateurs, vidéoprojecteurs, onduleurs, comme dit Christian. Et si on ne sécurise pas ça quelque part à travers le groupe électrogène, ben après, il y a des pannes, il y a un coût derrière aussi. Donc par contre, quand le groupe électrogène déclenche, parce qu'il a détecté des champs électriques et magnétiques à distance, tout n'est pas secouru. Donc il y a des priorités en période d'exposition, c'est principalement l'exposition pour les visiteurs. C'est-à-dire que la cuisine, elle n'est pas prioritaire. C'est-à-dire la vaisselle, cuisinière, les chambres et tout ça, ouais. Donc voilà. Mais c'est quand même très important. Par contre, effectivement, c'est très bien ce que Christian a dit là, et il a effectivement trouvé oui, le bon système.
Mais c'est toujours bien ce que je dis, toi,
pour déclencher
ce que je
le groupe électrogène. Sauf que le groupe électrogène a une autonomie de 24 heures. Donc l'hiver.
Non, 30 heures.
30 heures. Non, en plus, je me trompe.
Ah, c'est bien mieux.
Donc, ce qui veut dire, c'est que on n'est plus là les week-ends d'hiver, hein, suite à la restructuration. Donc, quand on part le vendredi après-midi, si le groupe déclenche juste après, et ben jusqu'au lundi matin,
oui.
S'il n'est pas alimenté, tout s'arrête.
Aïe, aïe, aïe.
Donc, ça, c'est un problème. Il faut l'alimenter.
Et ça nous est arrivé.
Et ça nous est déjà arrivé, oui.
Parce que, bien sûr, c'est quand on s'en va qu'il y a orage.
Voilà.
Il suffit de partir à 17h pour qu'à 17h15... Il y a orage et que, voilà, le groupe déclenche, etc.
Et lui, s'il ne boit pas en quantité, au bout de la 30 heures, il s'arrête tout seul.
Mais c'est vrai que vous parlez pas mal de la cuisine. C'est vachement important pour vous, ça, hein, la cuisine.
Ce n'est pas forcément la cuisine. C'est que la cuisine, c'est le lieu de partage par excellence. Aussi bien entre nous, quand on est deux l'hiver, eh ben, y en a un qui travaille au cinquième, l'autre en bas, l'autre dans un bureau. Donc on se croise autour d'un café, dans la cuisine, c'est la pièce centrale. Et ça l'a toujours été, elle est historique cette cuisine, elle a toujours été là. Et c'est aussi le lieu des engueulades, le lieu des réunions, c'est la plus grande pièce. Effectivement, c'est un moment de partage et de convivialité. Et l'hiver, quand il fait... quand il neige, quand il y a du vent violent qui bat les vitres sud, là, on ne s'entend pas parler. Donc on est enfermé dans la cuisine, on essaie d'entendre un brin de télé ou de discuter. C'est vrai que c'est vraiment le lieu de retrouvailles, ouais, par excellence.
Et en conclusion, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter à ce fort, à cet observatoire ?
Moi, je dirais, quand je suis arrivée ici, j'ai appris que le bonheur prenait sa source sous les Goales. C'est une rivière qui finit, qui retourne après vers, sous la montagne et qui arrive à Camprieu, après au lac du Bonheur. Et je me dis qu'il n'y a pas de raison que ça s'arrête. On a, nous, tellement de plaisir à accueillir les visiteurs nombreux qui viennent ici naturellement, hein, et à partager ce qu'on sait, ce qu'on vit avec eux, qu'on ne peut souhaiter que ça perdure, quoi, et pouvoir continuer à partager, c'est un vrai plaisir avec le public. On a vraiment des publics qui aiment ce site et qui aiment qu'on leur raconte des histoires. Pour moi, c'est des histoires. Mmh. Et c'est les petites histoires qui font la grande histoire de l'observatoire qui dure quand même depuis plus d'un siècle.
Et toi, Christian, qu'est-ce que tu dirais ?
On peut sauter une longue vie à l'observatoire, effectivement. C'est un site emblématique. C'est vrai que ce serait dommage que ça s'arrête. Et surtout, qu'il serait dommage qu'il n'y ait plus personne qui habite sur le site. Je trouve que depuis combien maintenant ? Il y a du personnel sur le site plus de 100 ans. Hein.
1894.
C'est vrai que c'est un peu le phare des Cévennes, c'est un peu le... Ouais, c'est le phare des Cévennes, je dirais. Enfin, des Cévennes, Cévennes Sud, tout au moins, parce qu'effectivement, il y a la partie Lozère, mais... Ouais, longue vie à l'observatoire, moi, je dirais.
Et Eric ?
Oui, bah écoutez, ce site est exceptionnel. C'est quand même formidable de se lever et de travailler à 1567 mètres d'altitude avec le soleil qui lèche les crêtes Cévenoles. C'est le plus beau cadre de travail qui soit, je pense.
Bah c'est vrai que c'est fabuleux. Bah je vous remercie encore et je vous souhaite une belle soirée étoilée. Merci.
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 L'Observatoire et la culture. Ben voilà, j'ai invité Catherine Vell et Marc Anne. Parce que le Mont-Aigoual est au cœur de deux de vos œuvres. J'ai nommé Un pas vers les nuages, livre de Catherine Vell, et L'Aigoual, une forêt retrouvée, film docu-fiction de Marc Anne. Catherine.
Bonjour.
Bonjour. Quel est votre lien si intime avec le Mont-Aigoual ?
Alors ça remonte à la toute petite enfance. Mon grand-père André Chanson et son épouse Lucie Mazoric me gardaient parce que mes parents étaient jeunes comédiens sans le sou. Ils commençaient à 6h du matin à faire de la radio et ils terminaient dans des cabarets à 2h du matin. Et ma grand-mère avait dit « c'est pas bien pour une petite fille ». Et puis elle avait très envie de s'occuper de moi, donc j'étais souvent avec mes grands-parents. Et donc j'étais souvent dans leur maison des Bressous au pied du Mont-Aigoual. Et Daddy, c'est le nom que je donnais à mon grand-père, m'emmenait très souvent au sommet de l'Aigoual, qui me fascinait déjà. On rencontrait des moutons, on rencontrait des bergers. Je dis on rencontrait parce que c'était pas seulement on voyait. On rencontrait, il y avait un vrai échange. Il me parlait en provençal, que personne ne m'a jamais appris, mais je comprenais ce qu'il disait. Il parlait en provençal aussi, ou en patois, cévenol avec les bergers. Et ça a nourri mon imaginaire de petit enfant.
Très bien. Et Marc-Anne, vous, quel est votre lien si intime avec ce Mont-Aigoual ?
Moi, j'ai découvert le Mont-Aigoual autour de 2002, 2003, 2004, je pense. Enfin, je ne me rappelle plus exactement l'année, mais on m'avait parlé d'une montagne qui avait été déforestée. Et puis après qui avait été reboisé, et j'ai été curieux de découvrir cette montagne. Je ne savais même pas qu'il y avait un observatoire d'ailleurs en haut. Et c'est en arpentant le terrain et en rencontrant Marie-France Flao, bah, que j'ai découvert un peu le massif, c'est-à-dire bah, tous les villages qui entourent le Mont-Aigoual. Et puis après, je dirais cet observatoire qui, voilà, qu'on ne peut pas manquer, qui intrigue, qui fascine et qui occupe tout le sommet.
Et aussi, on a autour du plateau Rémi.
Bonjour.
Bonjour Rémi. Alors, qui es-tu Rémi, toi ?
Moi, je suis technicien météo et je travaille pour Météo France à l'observatoire. Je fais partie des 4 permanents qui travaillent ici toute l'année.
Mais si tu es sur le plateau culture, c'est que tu as aussi des infos culturelles à nous passer.
Ben, je l'apprends.
Bon, ben, voilà, dans le livre de Un pas vers les nuages.
Dans les nuages.
Dans les nuages, pardon. Alors, on revit un peu ce qui se passe sur le Mont-Aigoual et autour du Mont-Aigoual pendant toute une année.
J'avoue que je me suis bien... Bon, alors, il y avait cette fascination du Mont-Aigoual et de l'observatoire depuis que j'étais toute petite. Et puis, il m'a été donné de rencontrer un peu plus précisément l'équipe des météos. J'étais absolument fascinée par leur travail. J'étais fascinée par leurs conditions de travail, c'est-à-dire les horaires particuliers, le roulement des équipes de deux ou trois, le fait qu'ils soient plus nombreux l'été parce qu'il y a un public immense qui vient. Et je me suis dit que j'avais la chance de connaître des gens qui faisaient un métier de passion, parce que j'ai compris qu'ils étaient tous passionnés, avec leurs spécificités chacun. Et je me suis dit, ça serait très bien de les inscrire dans un prochain roman, parce que j'ai eu la chance de venir printemps, été, automne et même hiver. Les circonstances avec les visiteurs ne sont pas les mêmes. Parfois, on peut frôler le drame. Enfin, il y a des tas de choses de dramatisation qui peuvent intéresser un romancier. Et j'ai commencé à les fréquenter un peu plus sérieusement. Alors, il y avait Rémi qui est à côté de moi, là, qui découvre qu'il a quelque chose à voir avec la culture. Rémi, il est comme tous les autres météos, sous des noms d'emprunt. J'ai demandé la permission. Sous des noms de fantaisie, on va dire, il fait partie de l'équipe météo que ma jeune héroïne, qui vient se réfugier en montagne, qui a bien des malheurs et des soucis, elle va les connaître dans des circonstances un peu particulières. Et une véritable amitié va se créer avec tous et avec chacun. Et j'ai eu des échos extrêmement positifs et extrêmement intéressés des lecteurs qui m'ont dit merci de nous avoir fait découvrir. Alors, ceux qui connaissaient déjà l'Observatoire m'ont dit merci d'en avoir parlé. Et ceux qui découvraient ont dit, on n'a qu'une envie, c'est de venir. Et surtout de venir voir le travail des météos. Donc, j'étais très contente.
Et alors, Rémi, c'est alias qui dans le roman ?
Oh, alors là, je ne me souviens plus, mais c'est un barbu. Dans le roman, il est un peu comme Rémi dans la vie. C'est-à-dire un peu pince sans rire, un peu chahuteur, un peu bougon, très très gentil, très solide, excellent météo. Et voilà, il y a une femme aussi ici qui est chef de service, qui est aussi représentée.
Oui, c'est Martine.
Voilà. Ici, elle a un autre nom dans la réalité. Donc, je me suis un petit peu inspirée de leurs traits de caractère à chacun. Et puis, surtout, l'un d'entre eux m'avait dit, tu sais, ici, on vit de façon particulière plusieurs jours ensemble. Le matin, on déjeune, après on travaille, après on dîne, après on parle, après on se lève à l'aube pour les premiers bulletins ou les prévisions. C'est un peu comme vivre en famille, mais il faut bien se dire que ce n'est pas une famille qu'on a choisie, ce n'est pas la nôtre. Donc de temps en temps, il peut y avoir aussi des frictions, il peut y avoir des incompréhensions. Mais on est obligé de finir par s'entendre, parce que quand vous avez le vent qui souffle, la tempête, la neige, on a intérêt, et j'ai une scène comme ça dans le livre, où tout d'un coup, au moment de Noël, il y en a deux qui doivent partir très vite en vacances dans leur famille, et il y en a deux plus un qui décident de rester, parce qu'ils disent qu'il y a une tempête Maus costaud qui arrive sur nous, et dans cinq minutes, on ne peut plus circuler sur le massif. Donc ceux qui doivent partir, c'est tout de suite, et nous, on reste fidèles au poste. Donc il y a une vie d'aventurier aussi, ça m'avait frappée.
Et Marcane, dans votre docufiction, justement, les météorologues, ils sont très importants, puisque déjà c'est un film pour Georges Fabre. Vous avez Georges Fabre comme l'initiateur de cet observatoire, c'est ça ?
C'est assez ce que j'ai découvert, parce qu'au départ, moi, je faisais un film sur le reboisement de la montagne, quoi. Et puis, en fouillant les personnages, j'ai découvert que Georges Fabre avait construit cet observatoire. Donc, pendant un petit moment, ça m'a mis un peu le... Je dirais, ça m'a perturbé dans l'écriture du scénario, parce que j'étais parti pour faire un récit écologique, hein, de grands reboisements, et puis il y avait cet observatoire qu'on pouvait pas passer à côté. Et donc j'ai mis un petit moment avant de pouvoir l'intégrer, et puis aussi, à force de monter ici... Ici, ils avaient des archives. Enfin, il y a une, déjà, quand on monte les escaliers là, qui grincent en bois, il y a un
c'est
portrait.
C'est presque Shining.
Il y a un portrait géant de Georges Fabre, donc on ne peut pas se passer à côté. Donc déjà, j'avais besoin de photos. Et puis, c'est en venant ici pour trouver des photographies, puis pour retrouver aussi des pages de l'histoire de ce forestier polyvalent, on va dire. Que j'ai finalement approché toutes les personnes qui travaillaient à l'observatoire. Au départ, elles m'ont reçu très gentiment, mais avec un peu de circonspection, on va dire. Hein. Je savais pas encore qu'il y avait 150 000 personnes qui passaient chaque année, surtout l'été. Donc j'étais comme un visiteur de plus, si vous voulez, qui s'intéresse à ça et puis qui va peut-être repartir le lendemain. Donc c'est vraiment à force de revenir 4 ans de suite... À différents moments d'ailleurs de l'année. J'ai aussi eu la chance d'arriver dans une voiture 4x4 derrière le chasse-neige qui a frayé un chemin jusqu'ici, donc découvrir aussi l'Aigoual quand il est entièrement recouvert de neige et de glace.
Ou de brouillard aussi.
Ou de brouillard aussi, oui, oui. C'est ça, à force de les rencontrer, que j'ai pu déjà intégrer l'observatoire dans l'histoire du reboisement, parce que c'est assez lié. Il avait construit cet observatoire aussi pour des raisons scientifiques, et puis pouvoir étudier l'effet du climat sur la végétation, la faune et la flore. Voilà un peu le parcours.
Et d'ailleurs, il y a monsieur Météo qui participe au film.
Et puis, voilà, après, pourquoi il y a eu un reboisement ? Parce qu'il y avait des conditions ici météorologiques particulières avec des pluies cévenoles qui inondaient les vallées. Donc ça, c'était quand même la principale raison. Donc du coup, dans le film, j'ai totalement intégré le fait qu'on ait un peu un climat hors norme. Donc on a deux multi météo, hein, en été et en hiver, et on voit tout à fait le contraste. Et puis ça nous permettait de parler aussi des conditions particulières, parce que le reboisement, pourquoi il a été compliqué, c'est aussi parce qu'en haut du sommet, il y a des vents qui font que c'est impossible de reboiser pratiquement, quoi. Donc il a vraiment fallu, pour les forestiers de l'époque, ensemencer le terrain avec des essences pionnières, donc les pins à crochets qu'on voit qui sont tout tordus, tout calcinés. On voit, quand on voit la forme de ces arbres en haut du sommet, on comprend que le climat est tourmenté. Et donc il y avait vraiment un lien entre la météorologie et puis le reboisement.
Mais Rémi, vous, c'est la culture scientifique.
Oui.
Et voilà. Et vous la faites partager aussi à ces milliers de visiteurs qui passent.
Mais on est là pour ça, en fait, faire de la vulgarisation scientifique. Donc on explique aux gens un peu tout ce qu'ils veulent savoir, notamment les épisodes cévenoles, pourquoi ils intéressent que les Cévennes. Et pourquoi il pleut beaucoup ici, et pourquoi on a des conditions dantesques par moment.
Le public, il est très accrocheur, il est très demandeur d'ailleurs, pour savoir tout ce qui se passe. Dans Catherine, vous disiez que justement vos lecteurs étaient très contents de savoir ce qui se passait un peu plus. Marc-Anne, je pense que aussi vos spectateurs aussi, ils doivent vous renvoyer ce côté fantastique de l'histoire du massif. Oui.
Mais oui, puis on a la chance d'être dans un bâtiment, en fait, c'est ça aussi qui fait le charme, je pense. On s'attache à ce bâtiment parce que c'est rare d'être dans un bâtiment de la fin du 19e siècle qui est encore fonctionnel, qui a encore tout son décor, qui est pratiquement dans son jus. Donc ça a donné aussi au film, tout d'un coup, moi ça m'a permis de tourner des scènes du 19e siècle alors que nous sommes à... Oui.
Vous avez dit tout à l'heure récif au lieu de massif. Et ça me convient aussi tout à fait parce que le château fort, en quelque sorte, la bâtisse extraordinaire du Mont-Aigoual, enfin de l'observatoire, pour moi, c'est un phare. Alors j'ai Rémi à côté de moi qui a aussi été marin, je crois. Et je me souviens d'un film, un reportage pour la télévision où on te voyait à la fenêtre et on avait vraiment l'impression de voir un marin, un loup de mer qui observait. Donc tu observais la mer de nuages et pas la mer Méditerranée ou un océan, etc. Et je trouve qu'il y a quelque chose ici, dis-moi si j'ai raison, il y a quelque chose ici qui doit rappeler les conditions du gardien de phare. Et je trouve que les météos, vous avez une fonction, c'est plus que du gardiennage. Il y a beaucoup de scientifiques ici, il y a beaucoup d'histoires, mais il y a beaucoup d'humains. Tu es d'accord ?
Ben, obligatoirement, oui.
Oui, oui, mais ça se sent particulièrement. Mais
ici, il y a un truc qui est pas mal, comme sur les bateaux, c'est le vent. Quand on est à la passerelle d'un bateau ou qu'on ouvre la fenêtre ici, on a le vent et c'est un sentiment plutôt sympathique.
Oui, oui.
Ok, ben, je vous remercie et je voudrais savoir où est-ce qu'on peut retrouver votre livre, votre DVD et la position GPS peut-être du Mont-Aigoual. Bon, déjà, Catherine, déjà, il faut quand même préciser que votre livre, il a eu un prix aussi.
Oui, j'en ai même eu deux. J'en ai eu un en Normandie, dans un salon du livre, j'étais très contente, et j'en ai eu un qui était assez important dans la région, qui s'appelle Le Cabri d'Or. Je l'ai eu fin 2015, le livre venait de sortir, et l'Académie d'Alès depuis 29 ou 30 ans, je suis la 29e, enfin j'étais la 29e, récompense une œuvre. Alors ça peut être du théâtre, ça peut être un roman, ça peut être un recueil de poésie, ça peut parfois être un film, ça peut être un tableau, c'est plus rare, mais quelque chose qui rend hommage aux Cévennes. Et nous sommes tous les ans entre 14, 16 et 18 lauréats possibles. Et fin 2015, c'était moi. Et je ne devrais pas le dire, mais allez, tant pis, je le dis. Je croise les doigts, j'attends une réponse, je pense, au plus tard mi-septembre, pour peut-être une adaptation télévisée via France 3 pour Un pas dans les nuages. Et je serai contente parce que ça rejoindrait en 2020 le grand merveilleux projet qui est en préparation pour l'Aigoile, enfin pour l'Observatoire Météo France. Et je pense qu'on se renverrait mutuellement des bonnes ondes via une œuvre grand public de film, télévisée, et surtout avec tout ce que et l'Aigoile et l'Observatoire et les gens qui y vivent et y travaillent nous apportent quotidiennement.
Mais c'est très bien ça, je vous souhaite beaucoup de succès.
On croise les doigts.
Voilà, le livre, vous pouvez rappeler le...
Alors, c'est un livre édité chez Anne Carrière. Étant donné qu'il est de 2015 et que les libraires ne peuvent pas garder des livres, souvent au bout de 3 mois, ils changent la devanture. Donc, on peut le commander à un libraire, Un pas dans les nuages, ou on peut, je vais faire hurler les libraires, mais c'est bien pratique aussi, Amazon, où vous pouvez trouver des ouvrages qu'on croit disparus. Qu'on ne retrouve plus nulle part et qu'on peut retrouver grâce à des collectionneurs sur Amazon. Voilà.
Et vous, Marc-Anne ?
Eh bien, Aigoile, la forêt retrouvée, c'est le titre du film. Et je pense qu'avec un moteur de recherche, on va arriver au site qui continue à le distribuer. Donc, on le vend sous forme de DVD et il est envoyé par la poste.
Mais vous avez un site ? Vous pouvez nous le dire, s'il vous plaît ?
Là, c'est un peu compliqué. Non, ah. Je pense que c'est avec le titre du film, on retrouvera très bien le film. On arrivera sur les sites. En fait, il y a plusieurs sites. Voilà, c'est un peu la panique de ce côté-là.
Et vous avez fait d'autres films aussi autour de...
Bah après, suite à ça, j'ai des racines filmique dans cette région, donc je suis au 4e film qui traite soit de la forêt, soit du pastoralisme dans les Cévennes et dans les régions, enfin les Causses et Cévennes comme on dit ici.
Et du loup, ne l'oublions pas.
Et en fait Rémi, pour retrouver le Mont Aigoual, c'est en fait au carrefour de 4 départements je crois aussi.
Oui pratiquement, mais déjà on est à la frontière du Gard de la Lozère, l'Aveyron est pas loin, puis l'Hérault non plus à vol d'oiseau.
Ouais. Ouais.
Voilà, donc moi je donne rendez-vous aux gens à l'exposition météo.
Voilà, jusqu'à quand l'exposition elle est ouverte au public ?
Alors, tous les jours et après on est ouvert jusqu'à fin octobre.
D'accord, ben, je vous remercie à tous et je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.
Au revoir. Bonsoir.
Et voilà, c'est fini, l'émission du Mont Aigoual se termine. Merci à vous tous et à vous toutes qui avez fait cette émission et à l'Observatoire par leur chaleureux accueil. Les extraits musicaux que vous avez entendus au cours de cette émission sont Inoula de Hacher, Aigoual et la forêt retrouvée, Le cri du cormoran d'Eddie Vartan, With Light, musique libre de droit. Cette émission a été produite et réalisée par Claire Bigeau par le Radis Sound.